spécifique à cette réflexion par rapport aux fêtes qui approchent. En effet, c'est la meilleure façon de se préparer pour profiter au maximum de la fête. On s'était proposé de traiter le thème « Pourquoi est-ce qu'à Hanouka, il y a une mitzvah spéciale d'embellir la mitzvah ?» Où est-ce que nous voyons qu'en effet, il y a une mitzvah d'embellissement de la mitzvah, ce que l'on appelle communément « Hidur mitzvah ». C'est basé sur la Baraita, relatée par la Gemara Maseret Shabbat, d'Afraf Aleph Amud Bet. Tanu Rabbanan, mitzvah de Hanouka, ner ish ubeto. La mitzvah de Hanouka est d'allumer une lumière, ish ubeto, l'homme et sa maison, l'homme et sa famille. Une seule bougie est allumée par jour pendant les 8 jours de Hanouka. C'est suffisant pour s'acquitter de son devoir de la mitzvah de Hanouka. Ver mehadrin, ner lekol echad ve'echad. Ceux qui veulent embellir la mitzvah, c'est comme ça qu'on va traduire maintenant, ner lekol echad ve'echad. Alors il va falloir allumer des nerotes en fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer. Ver mehadrin mina mehadrin. Et ceux qui veulent embellir la mitzvah au maximum, alors on a une mahloket. Selon Bet Shammai, Biyom Rishon Madlik Shmoneh Mikan Vailar Pochet Veholer, le premier jour, on allume 8 bougies et on va dans l'ordre décroissant, deuxième jour 7, troisième jour 6 et ainsi de suite. Ou Bet Hillel Omrim Yom Rishon Madlik Ahat Mikan Vailar Mosif Veholer. Bet Hillel disent le contraire. On va dans l'ordre croissant. Premier jour, 1 bougie. Dernier jour, 8 bougies. Ce qui fait qu'on a augmenté le nombre de lumières chaque soir. Cette mitzvah, aujourd'hui, comment est-ce qu'on l'applique? On le sait. Les séfarades, le mechaber, a été possèque ainsi. C'est-à-dire, on allume, première nuit, 1 bougie. Et on va chaque jour augmenter. Le 8e jour, 8 bougies. C'est comme ça que font les Sfaradim. Les Ashkenazim, chacun des membres de la famille, c'est-à-dire chaque garçon, doit allumer séparément sa propre Hanoukia. Il ne s'acquitte pas avec l'allumage du papa. Sur quoi est basée cette machloket? Elle est basée sur la discussion entre Rambam et Tosfot. Selon Rambam, je vous lis le langage du Rambam. Kaman nerot hu madlik behanuka. Mitzvata sheye kol bayit u bayit madlik ner ehad, ben shehayu anshe abayit merubin, ben shelo hayabo ela adam ehad. Comme on vient de le voir, la mitzvah minimale, c'est d'allumer 1 bougie par nuit, et peu importe le nombre de personnes. Amehader et hamitzvah, celui qui veut embellir la mitzvah, madlik nerot kiminyan anshe habayit, ner lekol echad ve'echad, ben anashim, ben nashim. Alors à ce moment-là, le maître de maison va allumer des bougies en fonction du nombre de personnes vivant à la maison. Ve'amehader yoter alze, et celui qui veut faire un meilleur hidour, ve'ose mitzvah minamuvhar, Madlik ner lekol echad ve'echad, balayla harishon, umosi ve'olech bechol layla ve'layla ner echad. Alors, il cumule les 2 hidurim. Premièrement, il allume en fonction du nombre de personnes qui habitent à la maison, et en plus, il allume chaque soir en fonction du nombre de jours. C'est-à-dire, mosi ve'olech, il augmente. Et Rambam donne un exemple concret. Ketsad. Hare shehayu anshe abayit asara. S'ils étaient 10 personnes à vivre dans cette maison, on est 10 personnes. Balayla harishon madlik asara nerot. Première nuit, ça fait 10. Belel sheni esrim. Deuxième jour, 20 bougies. Belel shelishi shloshim. Troisième jour, 30 bougies. Ad shenimtsa madlik belel shemini shemonim nerot. Le 8e jour, il va allumer 80 bougies. On est 10 personnes, on est le 8e jour, 8 fois 10, 80. Donc 10 plus 20 plus 30, plus 9, ça fait en tout 360 bougies. Un vrai budget. À part le chamash. Et maintenant, Rambam, qui nous a expliqué donc concrètement comment est-ce qu'on comprend cette baraïta, on va étudier Tosfot qui nous disent que non. Les deux hidurim ne sont pas cumulables. C'est soit on appartient au Mehadrim, soit on appartient au Mehadrim mina Mehadrim. C'est-à-dire, soit on allume en fonction du nombre de personnes qui vivent dans ce foyer, soit on allume en fonction du nombre de jours durant lequel on se trouve. C'est-à-dire, si on veut prendre comme référentiel le Mehadrim, le nombre de personnes, eh bien on est 10, ce soir on allume 10, premier soir. Deuxième soir, 10. Troisième soir, 10. C'est pareil, ça ne change pas. Mais si on veut faire partie des Mehadrim, mina Mehadrim, les supra-Mehadrim, eh bien le super-Hidour, c'est Mossi Veoler. 1, 2, 3, même si on est 10 personnes à la maison, on n'allumera qu'une seule bougie le premier soir. Pas comme Rambam. Une bougie, 2, 3, comme dit le Mechaber pour les séfarades. C'est comme ça que, selon Tosfot, on applique le Mehadrim mina Mehadrim. Et qu'est-ce qui a gêné Tosfot? Pourquoi Tosfot n'ont pas expliqué comme Rambam de cumuler les deux Hidurim, c'est-à-dire d'allumer en fonction, premièrement, du nombre de personnes qui vivent à la maison, et deuxièmement, dans l'ordre croissant? Car Tosfot prétend qu'il y a ici un gros problème. Lequel? C'est que si tu cumules les deux Hidurim, le nombre de personnes plus le nombre de jours, eh bien, à un moment donné, il y a une confusion. On ne sait plus où on en est, à savoir. Le maître de maison, qu'est-ce qu'il allume le premier soir? 10. Deuxième soir, 20. Alors, quelqu'un qui passe par là, il voit 20 bougies allumées. Il peut se dire l'une des deux choses. Soit, dans cette maison, il y a 20 personnes qui habitent. Pourquoi est-ce qu'ils ont allumé ce soir 20? Eh bien, parce que certainement, hier soir aussi, ils ont allumé 20. Et demain, ils vont allumer également encore 20, parce qu'ils sont 20 personnes. Ou bien, il se peut qu'ils ne soient que 10, et peut-être qu'hier, ils ont allumé 10, et aujourd'hui 20. Demain, ils vont allumer 30. La notion de Pirsoumenissa ne va pas se dégager plus en cumulant que sans cumuler. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit rajouter chaque nuit une bougie supplémentaire? C'est pour mettre en relief la dimension du miracle. C'est quoi? C'est qu'une fiole qui suffisait pour une nuit a suffi pour 8 jours. La même fiole, elle a suffi pour 8 jours. Donc lorsqu'on allume chaque jour, une lumière de plus, on met en exergue le miracle. C'est ça, Pirsoumenissa. Les gens disent, waouh, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 3 bougies. Ça veut dire que la fiole a suffi pendant 8 jours au lieu d'un seul. C'est comme ça que on met en relief le miracle. Mais si tu allumes en fonction du nombre de personnes plus le nombre de jours, on n'a rien compris. On voit et on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch, qui a été posé comme Tosfot, on l'a compris, mais les Ashkenazim, qui font comme le Rambam, d'ailleurs, c'est intéressant, le Rama, qui généralement est possèque comme Tosfot qui est Ashkenaz, et le Mechaber qui est possèque comme le Rambam qui est séfarade, cette fois-ci c'est un chassé croisé. On a fait la paix à Hanouka. C'est-à-dire que Mechaber séfarade est possèque comme Tosfot Ashkenaz, Rama Ashkenaz est possèque comme Rambam séfarade. Et en effet, comment va-t-il tirer son épingle du jeu? Le Rama pour les Ashkenazim, il dit, oui, il faut allumer en cumulant les Hidurim. Eh bien, il dit, j'ai une idée, une solution. C'est que chaque enfant allume séparément dans un endroit différent. Et là, on est sorti du problème qu'évoque Tosfot.
Si...
C'est-à-dire?
Mais alors, là, il n'y a plus de problème. Alors, que tout le monde fasse comme Rambam.
C'est vrai. Alors, je vais tout de suite expliquer pourquoi pourquoi le Tosfot n'a pas proposé ce que dit le Rama. Mais le Rama, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, chaque enfant va allumer séparément, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Premièrement, on a fait le premier hidour en fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer, ben chacun a allumé. Deuxièmement, c'est que, et oui, il y a Pirsoumenissa, les gens peuvent constater l'évolution du miracle, le rajout de chaque jour, puisque dans chaque Hanoukia, c'est pareil, on voit chaque jour une bougie de plus. Pas de problème. Alors, comme Rabbi Avraham demande, pourquoi alors le Tosfot n'a pas eu cette idée qui est tellement simple? Réponse. Rambam, même si j'ai dit que le Rama fait comme Rambam qui est séfarade, ce n'est pas exact. Car le Rambam a bien dit que celui qui allume en fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer, c'est le maître de maison. Il n'y a que lui qui allume. Pas comme propose le Rama pour les Ashkenazim, que chacun allume séparément. Non. La mitzvah, c'est ner ish ubeto. La mitzvah incombe au maître de maison et lui allume en fonction du nombre de personnes et en fonction du nombre de jours. Mais c'est lui qui allume. Si c'est lui qui allume, il allume une seule menorah. Et voilà donc le problème de Tosfot. Tu allumes une seule menorah, on voit ici 20 nérotes, 30 nérotes, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Alors le Rama a été mechadesh un chidouche. On ne sait pas comment est-ce qu'il a pu innover cela, de dire comme le Rambam et pas comme le Rambam. Comme le Rambam, c'est-à-dire qu'il cumule les deux hidourim, mais il dit que ce n'est pas le maître de maison qui allumera toutes les chanoukiot, c'est chacun séparément. Certainement, j'ouvre une parenthèse, certainement le Rama s'appuie sur une idée. C'est qu'aujourd'hui, on n'allume plus à l'extérieur. Pour le Pirsoumenissa, pour la publication du miracle, en faveur des gens qui passent par là, qui voient et qui s'étonnent, et qui posent des questions, et qui apprennent le miracle. Non, aujourd'hui, la mitzvah, elle est à l'intérieur de la maison. La mitzvah, c'est d'allumer chez soi. Comme dit la Baraita plus tard, « Besha'at asakana manihal shulhano vedayo ». Depuis que les goyims nous ont interdit d'accomplir les mitzvot, alors on ne peut plus les accomplir de manière manifeste. On ne met plus la chanoukia à l'extérieur devant la porte de la maison. On allume à l'intérieur. Si on allume à l'intérieur, il y a un changement du statut de la mitzvah. Ce n'est plus une mitzvah qui est relative à la maison, c'est une mitzvah qui est relative à la personne qui vit à la maison. Et donc en fonction du nombre de personnes qui vivent ici, chacun va accomplir sa mitzvah.
Oui, mais Rambam, il sait tout ça. Mais Rambam lui parle à l'époque où on allume à la porte de la maison, et quand même il y aura 80 bougies.
Il allume à l'extérieur.
À l'extérieur.
Donc à l'extérieur.
Donc on ne peut pas être mafile, est-ce qu'il y a premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour?
Oui, le Rambam lui...
Donc c'est quoi sa conception à Rambam?
Sa conception, c'est que l'homme doit faire ce qu'il peut faire. C'est-à-dire, il sait qu'il a un nombre de personnes, il sait qu'il a un nombre de jours, alors il fait ce qu'il peut.
Non mais d'accord, mais quelle est sa conception de la promulgation du miracle? Parce que finalement, on nous dit, si je peux me permettre, que le premier jour, on allume un, deuxième jour, deux, machin, bidule. Donc c'était le septième jour, sept, huitième jour, huit. Mais s'il y a cinq personnes dans la maison, 8 × 5, 40, et c'est une seule personne qui allume 40. De l'extérieur, il dit, 40, ça peut être divisible par 5, tu veux diviser par 8, ça veut dire divisible par 2, divisible par pas mal de trucs. Donc finalement, il y a une... Donc pour lui... Le but n'est pas de distinguer le nombre de jours, mais c'est autre chose.
C'est clair, parce que sinon, Tosfot n'aurait pas posé de questions.
Donc Rambam finalement ne répond pas.
Absolument, il ne répond pas à la question de Tosfot.
C'est qu'il a une autre conception.
S'il avait répondu à cette question, Tosfot n'aurait pas eu de questions.
Il a une autre conception.
Or, si Tosfot pose la question, c'est parce que justement, Rambam est étonnant, à ce niveau-là, car on ne comprend pas comment Rambam voit ici la publication du miracle. C'est exactement la couchette Tosfot sur Rambam.
D'accord, mais donc ça veut dire que lui, il déplace le problème ailleurs.
Ailleurs. Il faut le savoir où est-ce qu'il le déplace. Mais en tout cas, Tosfot n'ont pas compris le Rambam.
Sûrement, on pourrait dire que Rambam, pour lui, c'est pas distinguer le nombre de jours. C'est pas distinguer le nombre de jours. Sûrement, pour Rambam, c'est qu'il y a une profusion de lumière.
Mais pourtant, il dit bien qu'on cumule en fonction du nombre de jours. Il dit bien en fonction du nombre de jours aussi.
Oui, mais Ma'alim Bakodesh, mais le problème, la notion n'est pas de distinguer le nombre de jours, mais de que le miracle s'amplifie.
À quel titre ?
Comment ?
Pour quelle raison ? Ça veut dire, quel est le but de rajouter les jours ? Quel est le but de rajouter les jours ? Le but, c'est de montrer que chaque jour, il y a eu un S supplémentaire. Donc, et ça, cette dimension...
Mais là, on est bloqué dans cette conception.
Bien sûr.
C'est que lui, il a une autre vision.
Oui, mais ça veut dire que pour lui, le principal, c'est que l'homme qui allume, il sait qu'il allume en fonction du nombre de jours. Les spectateurs, eux, bien sûr, ne pourront pas faire le calcul. Ils ne peuvent pas savoir combien de personnes habitent ici. Mais l'homme qui allume, il sait qu'il le fait dans le but de Persoménissa. Dans le but de rappeler. Lui, il se rappelle du miracle.
Mais juste pour revenir, si un jour, il voit trois
comment
bougies. Celui qui passe un jour, il voit trois bougies. Il ne peut voir qu'il y en a plus que s'il est passé la veille pour voir qu'il y en avait deux.
C'est vrai, mais est-ce que cette personne passe tous les jours par là?
Si elle passe tous les jours par là, même s'il y a beaucoup de monde, elle verra qu'il y a plus de lumière.
Comment?
Même s'il n'a pas la conception de Rambam, si elle passe le lendemain, elle verra bien qu'il y a plus de lumière.
Oui, oui. Si, donc c'est peut-être une réponse. C'est joli ce que vous dites. Peut-être pour Rambam se réfère aux personnes qui passent tous les jours par là.
Oui, non, mais ça, c'est pas vraisemblable.
C'est pas vraisemblable. Alors, tout compte fait, il s'avère que pour l'un ou pour l'autre, la manière comment on doit pu être mehader, c'est en fonction de ce qu'ils ont compris dans la Braïta. Mais la question se pose, pourquoi spécialement à Hanouka y a-t-il une mitzvah de hiddur et de mehadrin mina mehadrin? Chose qu'on n'a pas trouvée pour d'autres mitzvot. Mehadrin mina mehadrin. Qu'est-ce qu'on a vu?
On veut mettre les mitzvot
ah oui, ça c'est pour l'argent. Ça c'est, je suis d'accord, vous payez. Ah, mais au niveau du prix, c'est vraiment mehoudar le prix.
Non, vous payez. Le concept de Madrin mina Madrin, ça a été chippé de Hanouka.
Mais vous comprenez que c'est n'écrit nulle part dans le chasse. Mehadrin mina Mehadrin, nulle part. On ne retrouve donc nulle part ailleurs cette notion de Mehadrin mina Mehadrin. Pourquoi spécialement à Hanouka va naître cette notion? Alors, on va rappeler ce que dit le Ramban au début de Parashat Be'alotra. Rabban Nahmanid pose une question par rapport à ce que Rashi nous explique. Rashi se demande pour quel rapport y a-t-il entre Parashat Amenorah et Parashat Hanukat Anesi'im. Juste avant la Parashat de Be'alotra et Tanerot, qui est la mitzvah de l'allumage de la Menorah, donné à Aaron à Cohen, la Torah nous décrit le sacrifice inaugural des 12 Nesi'im qui, pendant les 12 premiers jours de Chodesh Nissan, depuis l'érection du Mishkan, ils ont inauguré le tabernacle par l'offrande de sacrifice inauguratoire. Et Aaron à Cohen a eu une chalishut ad-da'at. Il a été démoralisé. C'est la raison pour laquelle la Torah a juxtaposé Parashat Be'alotra et Tanerot, la Menorah, au sacrifice de Hanukat HaMishkan, Hanukat HaMizbeach des 12 Nesi'im. C'est parce que Aaron HaKohen a constaté que tout le monde a été invité à offrir ce sacrifice de Hanukat HaMishkan, sauf Aaron HaKohen et le Shevet Lévi, Lohu. Veloshivto. Halsha da'ato shel Aharon. Aharon a été démoralisé. Akadosh Baruch Hu a voulu le consoler et il lui dit: Aharon, shelcha gedola mishelahem, she'ata madlik umetiv et anerot. Toi, je t'accorderai une mitzvah spécifique, mais qui n'est applicable que par toi. Be'alotra et anerot, toi et ton chevet, ta descendance, qui est l'allumage des nerot de la Menorah. Voilà la consolation pour Aharon. Be'alotra et anerot. Ramban Nahmanid s'interroge, il dit: je ne comprends pas deux choses. Premièrement, pourquoi est-ce que Aharon a été démoralisé? Pourquoi est-ce qu'il était jaloux des Nesi'im, des chefs de tribu? Pourtant, pendant cette période, lui-même a offert beaucoup de korbanot, même si ce n'était pas des korbanot de Hanoukat à Mishkan, mais beaucoup de korbanot. Il n'était pas au chômage technique à Aaron pendant cette période. En plus, pourquoi Hachem n'a choisi que la mitzvah de la menorah pour le consoler? Il aurait pu le consoler par la Avodat Yom HaKippurim. Qui peut faire Avodat Yom HaKippurim? Que le Kohen Gadol. Minhat Havitin chez le Kohen Gadol. Chaque jour dans le Mikdash, le Kohen Gadol offrait un korban. Mahatzito ba-boker, mahatzito ba-erev. Minhat Havitin, c'est une oblation, une offrande à base végétale. Et il avait la priorité, quand il venait Kohen Gadol, il pouvait immédiatement se servir et faire lui-même l'office sacerdotal. Pourquoi est-ce que Hakadosh Baruch Hu a choisi spécialement la mitzvah de la Hadlakat HaMenorah? Eh bien, il aurait pu le consoler par n'importe quel autre korban dont seul le Kohen Gadol est habilité à réaliser. Réponse d'Iramban au nom de Rabbeinu Nissim Gaon dans son livre Megillat Starim, qui dit que, au travers d'une midrash, une agada, que Hakadosh Baruch Hu, quand il a mesuré le chagrin profond de Aharon à Cohen, il a consolé par rapport à quoi? Par rapport à la Hanoukat Hashmonaim. Hanoukat Hashmonaim, Beha'alotra et Hanerot, on ne parle pas uniquement des Nerot que va allumer Aharon dans le Mishkan, mais des Nerot que les Hashmonaim vont allumer lorsqu'ils vont vaincre les Yevanim, les Grecs, et ils vont restaurer la Kedusha dans le Beth Amikdash. Ils vont chasser les Yevanim d'Eretz Israël et ils vont rétablir à nouveau le culte sacré dans le Beth Amikdash. L'inauguration du Beth Amikdash va se faire par l'allumage des Nerot de la Menorah. C'est-à-dire, en d'autres termes, la démoralisation de Aaron à Cohen était la suivante. C'est qu'il lui manquait une mitzvah à un caractère particulier. Lequel? C'est la notion de Hanouka. Hanouka, c'est-à-dire inauguration. Les 12 Shvatim ont offert chaque jour, des 12 premiers jours du mois de Nissan, jour durant lequel le Mishkan a été monté, érigé, ils ont offert un sacrifice qui est unique, dont il n'aura pas son égal plus tard. C'est un sacrifice à caractère inauguratoire. Hanoukat Hanesi'im, Hanoukat Hamishkan. Hakadosh Baruch Hu va dire à Aaron à Cohen, eh bien, sache que je te réserve également une mitzvah qui a le même caractère de Hanouka, c'est Hanoukat Hashmonaim. Lorsque les Yevanim vont interdire le culte sacré, et en effet le Beth Amikdash va se retrouver en chômage, et il n'y aura plus de korbanot. Mais lorsque les Hashmonaim vont repousser les Yevanim et qu'ils vont restaurer Avodat HaKorbanot dans le Beth Amikdash, ils vont commencer par quoi? On dit dans la prière à la Nissim, tes enfants sont venus. Ve'idliku Nerot Behatzrot Kotchecha. Ils ont allumé les Nerot dans Hatzrot Kotchecha. Ve'kavu Shemonat Yeme Hanouka Elu Behallel Ubehoda'a. Le Hallel et la Hoda'a dans Modim, à la Nissim et à la Pourkan, ça a été fixé à partir de cette Hanouka. Donc Aaron, Hachem a voulu le consoler en lui disant, tu ne manqueras pas cette mitzvah au caractère de Hanouka, car il y aura la Hanouka des Hashmonaim. La question qu'on va poser est la suivante. Est-ce une consolation, vraiment? Imaginons quelqu'un qui est pauvre mendiant. Il aspire à la richesse. Il attend de devenir riche. On lui dit, tu sais, laisse tomber, pour toi c'est mort. Mais ton arrière-arrière-petit-fils sera multimilliardaire. Est-ce une consolation? Évidemment que non. Quelqu'un qui souffre de la pauvreté, en lui disant que l'un de ses descendants sera riche, ça ne suffira pas pour le consoler. Alors comment est-ce qu'Hakadosh Baruch Hu console Aharon en lui disant que ses descendants, les Hashmonaim, qui sont des Kohanim, vont pouvoir accomplir la mitzvah qu'il désirait lui accomplir personnellement. Mais ce n'est pas une consolation, puisque Aharon voulait lui accomplir cette mitzvah au caractère de Hanouka, Ça, on ne lui donne pas la possibilité de le faire. On dit, voilà, tes descendants vont le faire, les Hashmonaïm, les Kohanim. En quoi est-il consolé ? Chavod.
Mais, à part ça, les Nessim qui ont participé à l'inauguration, c'était une offrande, Nedava. Comment ça se fait que la tribu de Lévi n'a pas participé ? Mais personne ne leur a rien donné aux Nessim. Ils sont venus par eux-mêmes.
C'est vrai. Il faut... Ça, c'est une très bonne question.
C'est très bizarre.
C'est très bizarre. Il faut dire que, certainement, étant donné que le Mishkan était une compensation par rapport au Hegel, on sait que la Shekhina a quitté Israël depuis la faute du Vaudor, et elle est revenue avec le Mishkan. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Le Gaon de Vilna nous explique que cette mitzvah qui a été donnée de construire le Mishkan, ça a été donné le lendemain de Kippour. Kippour qui a été le jour du grand pardon par rapport au Chet HaEgel. Alors à Israël, on dit, c'est vrai qu'on a été pardonné, mais ça ne suffit pas, on voudrait que la Shekhina revienne. Hachem dit, alors vous voulez que je revienne ? Ve'asu le mikdash ve'shachanti betocham. Construisez un sanctuaire. La mitzvah a été donnée le 11 Tishri. Il a fallu rassembler toutes les matières premières en deux matinées. Evi'u nedava baboker, baboker. C'était le 12 et le 13 Tishri. L'inventaire a eu lieu le 14 Tishri. Elle est Pekudea Mishkan. Ils ont commencé à construire, c'était le 15 Tishri. Les Hanane Kavod, les nuées de gloire reviennent le 15 Tishri. D'ailleurs, c'est pour ça, dit le Gaon de Vilna, qu'on fait Sukkot au mois de Tishri et non pas Sukkot au mois de Nissan lorsque les nuées de gloire sont arrivées. Pourquoi ? Parce que la preuve du retour d'Akadosh Baruch Hu après la faute du Vaudor a eu lieu grâce aux nuées de gloire qui sont revenues. Eh bien, ça, qui est-ce qui a fauté dans le Vaudor ? C'était tout le monde sauf Shevet Lévi. Lorsque Moshe Rabbeinu va dire « Mi Lachem Elai, vaye asefu elav kol bene Lévi ». Ce qui veut dire que le Shevet Lévi n'était pas concerné par le Chet HaEgel, donc n'était pas concerné non plus par l'inauguration du Mishkan, qui était là que pour Kaparat HaEgel. Certainement, c'est ce qu'il faut dire.
Donc ça veut dire, c'est pas qu'il était exclu, mais... Concrètement, c'était pas, il n'avait rien à faire là.
Bravo.
Le fait est, c'est qu'il n'a rien offert.
Voilà. Excellent.
C'est ça le problème.
Mais s'il n'était pas concerné, pourquoi il était vexé ?
Voilà.
Comment ?
S'il n'était pas concerné, pourquoi il était vexé ?
Alors, c'est très bien. Il faut comprendre qu'il y a dans chaque chose le négatif et le positif. C'est-à-dire, quand on fait une mitzvah pour attraper quelque chose, certes que c'est pour combler un manque, mais il y a également une élévation spirituelle au travers de ce maaser mitzvah. Comme avait dit tout à l'heure Rabbi Avraham, Asher kideshanu be mitzvotav et tzivanu. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, on est mitkadesh. Cet aspect positif, on le perd même si on n'était pas invité à combler un négatif, à combler un manque. C'est-à-dire, Aaron était jaloux, je dirais presque à la limite, quelqu'un qui a fait tshuva. Quelqu'un qui a fait une avera, il a fait tshuva. Vous savez que Chachamim nous disent, comme chez Baal Teshuva, Omdim, En Tzadikim Gmorim Yecholim La'amod. Un Baal Teshuva atteint un niveau supérieur que celui du Tzadik. Alors le Tzadik, c'est vrai qu'il n'a pas fauté. Mais parfois, il peut jalouser. Il peut envier le Baal Teshuva. Parce que le Baal Teshuva est encore plus proche d'un Kadosh Baruch Hu. Mais alors, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Eh bien, va fauter pour arriver à ce niveau ? Évidemment que non. Mais il y a de quoi être jaloux. Comme dit le pasouk, Shalom, Shalom, la rahok ve la karov, amar Hashem ou fativ. Akadosh Baruch Hu dit Shalom au rahok avant le karov. En tout cas, Aaron HaKohen était consolé par cela. Mais la question se pose, en quoi est-il consolé ? En lui disant que les Hashmonaïm, qui sont des Kohanim, descendants d'Aaron, vont pouvoir pratiquer cette mitzvah de l'allumage des Nérotes, qui a un caractère de Hanouka à l'époque des Hashmonaïm. La réponse est peut-être la suivante. Vous savez qu'il y a deux façons de servir Dieu. Il y a une avoda par crainte, et il y a un service d'Hachem par amour. Quelle est la différence entre les deux dimensions ? Ahava, évidemment, c'est plus fort que Ira, dans le sens où personne n'a contraint cette personne à faire la mitzvah, elle vient d'elle-même servir à Kadosh Baruch Hu, c'est un niveau supérieur. Mais il y a une différence au niveau technique également, dans le sens où quelqu'un qui aime une chose, eh ben, ça fait partie de sa propre nature. Et la nature du père, elle passe chez les enfants. C'est héréditaire. Tandis que quelqu'un qui accomplit une chose par contrainte, c'est une force extérieure et étrangère qui le pousse à faire la chose. Cette personne n'a pas intégré du tout la volonté de faire cette chose-là. Donc ce ne sera pas héréditaire. Tout ce qui est par crainte n'est pas héréditaire. Ce qui est par amour, oui. Car c'est par amour, c'est je veux. C'est ma nature. J'en ai envie. J'ai envie. Alors, la nature, elle est, oui, héréditaire. Nos ancêtres ont servi Hachem par amour. C'est pour ça que nous sommes leurs héritiers. Comme dit Rashi, à propos du pasouk, « Ze eli ve'anvehu, Elohe avi va'arom emenu. » Je ferai des mitzvot avec embellissement, car c'est le Dieu de mon père, je le glorifierai. Rachid expliquait, l'homme immenit hilata kedusha, et là, Yerushaï ou Mourzeket beyadim et avotai. Je ne suis pas l'innovateur de la dimension de sainteté, je l'ai tout simplement hérité de mes ancêtres. Alors, cette notion-là d'hérédité dans l'amour d'Hachem nous permet de comprendre un midrash très curieux, on le rappelle à Tisha B'Av, c'est l'histoire de Hana avec ses 7 enfants. C'est aussi la période de Hanouka où Antiochos avait voulu contraindre les enfants de Hana à se prosterner devant lui. Le premier va refuser en disant « Non, je ne crois qu'en Dieu. » Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Le second également se refuse par rapport au deuxième commandement du Décalogue. Lo yielecha Elohim acherim al panai. Tu n'as pas le droit de vouer un culte à des idoles. Le troisième refuse également en proclamant Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Israël n'a qu'un seul Dieu. Et c'est comme ça que les uns après les autres se font exécuter à cause de leur refus de se prosterner devant l'empereur. Le petit enfant de 2 ans et demi, le roi a pitié de lui, lui dit « Écoute, je vais lancer ma bague, tu vas la ramasser, tu vas feindre de te prosterner devant moi parce que je n'ai pas envie de te tuer, j'ai pitié de toi. » La maman demande au roi le droit de parler à son fils. Il était sûr que c'était pour l'encourager à se prosterner. Mais elle, c'était juste le contraire qu'elle va lui dire. « Mon fils, tu es encore jeune, certes, mais prends exemple sur tes frères. Nul n'est immortel dans ce monde, alors sanctifie le nom divin comme tes frères par le sacrifice de ta vie, même si tu es jeune et tu ne comprends pas l'importance de cet acte. Mais je te demanderai une chose, c'est que lorsque ta neshama arrivera là-haut, dans le Gan Eden, tu vas aller droit chez Abraham Avinu. Tu lui diras, toi tu as sacrifié, tu as voulu sacrifier un enfant, tu as construit un autel. Moi j'en ai sacrifié 7. Le Raphaïm Zaïchik Zecher Tzadik Livracha disait, qu'est-ce qu'elle a voulu, Hanna, dire à Abraham Avinu? Je suis plus grande que toi? Je suis meilleure que toi? Impossible qu'une femme si pieuse fasse preuve d'orgueil. Elle a voulu dire à Abraham Avinu, ne pense pas que la Akedat Yitzhak, c'est une opération unique dans l'histoire et qui est tombée dans les oubliettes, loin de là. Ce que tu as fait était tellement fort, ce sacrifice de ton fils pour Hachem était fait avec tellement d'amour. Et bincha et yichidecha asher ahavta, le fils que tu as aimé. L'amour de Dieu était encore plus fort que l'amour de ton fils. Au point de lui sacrifier ton fils unique que tu as eu dans ta vieillesse, c'est ce qui nous a donné à nous aujourd'hui des forces de pouvoir en sacrifier 7. Tout ça te revient. Donc, la avodat Hashem qui se fait be'ahava, c'est ce qui fait que les générations à venir continuent de retransmettre le même flambeau. Cette flamme d'amour d'Hashem ne s'éteint pas dans les cœurs d'Israël parce qu'on a déjà été éclairé par nos patriarches, nos ancêtres. C'est ce que veut dire Akshbohu Aharon HaKohen. Aharon, Aharon, ne sois pas chagriné. Ne pense pas que tu n'as pas eu l'occasion d'allumer cette Hanouka. Parce que Beha'alotra et Hanerot. Les Nerot des Hashmonaïm, c'est toi qui vas les allumer. C'est-à-dire, on le sait, que Ham Israël, à cette époque de Hanouka, se trouvait, Hasve Shalom, dans une situation d'extinction de la flamme juive. Beaucoup de gens déjà avaient été convertis à la culture grecque. Beaucoup de gens avaient déjà été influencés par cette philosophie de la culture grecque. Les Hashmonaïm, les Tzadikim, étaient peu nombreux. Masarta, Giborim, Beyad Chalashim, Rabim, Beyad Me'atim. Et presque, à ce moment-là, on pensait que c'était suicidaire que d'aller livrer guerre à 40 000 soldats grecs par rapport à une petite poignée d'hommes, Hashmonaïm. C'était tout juste impossible de remporter une telle victoire. Les Hashmonaïm auraient pu se dire, c'est fini. Bataille perdue d'avance, posons les armes, baissons les bras, laisse tomber. Le judaïsme, c'est terminé. Vehoshech al penetehom. Hoshech, l'obscurité planée sur les abîmes, nous disent Rachamim, Hoshech, zom al chutiavan. C'est cette période où les Yévanim nous ont contraints à inscrire sur des cornes de bœuf que nous n'avons pas de part en la divinité. Eh bien, les Hashmonaïm ont fait preuve d'un courage incroyable. Ils ont dit, on préfère mourir en tant que juifs plutôt que vivre comme des goïm. Et Akadosh Baruch Hu ne les a pas déçus. Il a transmis les forts entre les mains des faibles, les nombreux entre les mains des peu nombreux, les réchaïm entre les mains des tzadikim, les impurs entre les mains des purs. Et ils ont pu restaurer la kedusha au sein du Ham Israël. Ils ont pu allumer cette lumière pour Hanoukat Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu va dire à Aaron, tu sais par quel courage, quelle était la force, le secret de la force des Hashmonaïm? C'est toi, Aaron. Toi également. Tu étais dispensé de cette mitzvah. On ne t'a rien demandé. Tu n'es pas concerné par la mitzvah de Hanoukat Amishkan. Eh bien, qu'à cela ne tienne. Va dormir tranquille. Tu fais l'économie de temps, d'énergie, d'argent. On ne t'a rien demandé. Baruch Hashem, je ne suis pas tour de la mitzvah. Ce n'est pas comme ça que Aaron à Cohen, un amoureux de Dieu, réagit. Il est chagriné. Il en est malade. Au point que Shmochou a besoin de le consoler. Akshbohu lui dit, ton chagrin, c'est la preuve de l'amour indéfectible qu'il y a dans ton cœur envers Hachem. C'est cet amour qui va éclairer l'esprit des Hashmonaïm à l'époque de Hanouka. Et c'est grâce à toi qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire. D'aller livrer bataille aux Yevanim et je leur accorderai la victoire. Et ils vont faire la Hanoukat Amigdash avec l'allumage des Nerot. Mais c'est toi qui allumes ces Nerot. Beha'alotecha et Anerot. C'est toi qui allumes ces Nerot. Les Nerot des Hashmonaïm. Et comme dit le Ramban, en quoi Hachem lui dit que c'est plus que toute la Hanouka des Nesi'im? C'est parce que la Hanouka des Nesi'im était relative aux Korbanot. Les Korbanot, les sacrifices, on peut les offrir que lorsque le Beth Amigdash existe. On ne peut pas offrir des Korbanot si on n'a pas de Beth Amigdash, c'est assour. Tandis que les Nerot, on les allumera aux portes des maisons juives, dans les maisons juives, jusqu'à la fin des temps. Ad biat Mashiach. Shelcha gedola mishelahem. C'est cette lumière qui nous anime en permanence. C'est l'exemple de nos ancêtres qui ont été capables de vouer une guerre qui était perdue d'avance contre cet ennemi insurmontable, invincible. Mais Akadosh Baruch Hu a montré que rien n'est impossible pour lui. C'était un hidur mitzvah de leur part à eux. Eux, ils ont fait du hidur mitzvah. Selon la mitzvah, ils n'avaient aucune obligation à se sacrifier. Vous le savez, il n'y a que trois averot qu'on n'a pas le droit de transgresser, même au péril de sa vie. Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Si un goy vient te dire, ou tu te prosternes à l'idole ou je te tue, tu te laisses tuer. Ou tu vas avec cette femme qui t'a interdite, tu te laisses tuer. Ou tu tues ton voisin ou je te tue, tu te laisses tuer. Mais on n'a jamais dit que tu as le devoir de mettre ta tête dans la gueule du loup. Tu n'as aucun devoir d'aller exciter une armée contre toi et de leur livrer bataille, sachant que tu vas te faire écraser. L'interdiction, c'est d'être actif dans la ravera de Avodah Zara, Gilo, Yarayot, Shfechut Damim. Mais si tu es passif, tu restes chez toi les bras croisés, tu n'as aucune obligation d'aller sortir faire la guerre avec quiconque. De ce fait, les Hashmonaïm pouvaient aller dormir tranquilles et dire « Tu rigoles ou quoi? Je vais mettre ma vie en danger. » Et puis quoi alors? Eux, ils ont fait un Hiddur Mitzvah. Eux, ils ont décidé de sacrifier leur vie. Ils n'étaient pas obligés. C'est au-delà du devoir minimal de la Mitzvah. Non seulement cela, lorsqu'ils ont cherché une fiole d'huile, et il n'y en avait pas des fioles qui étaient tahor, qui étaient pures, il n'y avait que des huiles souillées, profanées, impurifiées par les Yévanim, par les Grecs, ils ont dit non, on ne veut pas inaugurer le Beth Amikdash avec une huile impure. On veut de l'huile pure, Shemen Zayit Zar, Katit la Maor. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Mais cette fiole, elle contenait suffisamment que pour un jour. Ça suffit pour 8 jours. Pourquoi Hachem leur a fait ce Nes? Le Pnei Yoshua pose une question très forte. Il dit, mais ils n'avaient même pas besoin de ce miracle. On connaît la règle. Tum'a hutra betzibur. Lorsqu'un public, un tzibur, a besoin d'offrir un sacrifice, et bien même s'ils sont impurs, ils ont le droit. L'impureté ne fait pas obstacle devant un sacrifice communautaire. Lorsqu'on a un devoir collectif de l'ensemble du peuple, comme l'allumage de la menorah, qui est une mitzvah de la part de tout Israël, eh bien on a le droit d'allumer la menorah avec de l'huile impure. Pourquoi Hachem avait besoin de leur faire ce Nes? Pour leur montrer qu'il a agréé leur démarche, qu'il a approuvé cet enthousiasme de leur part. Ils ont été prêts à sacrifier leur vie, alors qu'ils n'étaient pas obligés, juste pour ramener la Kedusha au sein d'Israël. Ben Shmuchou dit, je vous aiderai à faire en sorte que la mitzvah sera parfaite. Et même s'il le faut, dans des conditions surnaturelles, une fiole d'un jour a suffi pendant 8 jours. Ça nous permet de comprendre pourquoi Hanouka, il y a une double dimension de Hiddur Mitzvah. Mehadrin et Mehadrin mina Mehadrin. Chose inexistante pour toute autre mitzvah. Car cette mitzvah, on n'était pas resté les bras croisés. On nous a fait sortir d'Égypte. On a été sauvés de Haman. On n'était pas actifs. Là, on était actifs. Là, on s'est battus. Prêts à payer de notre vie. Et à Kadosh Baruch Hu dit, il y a ici une double hidour. Hidour par rapport à leur comportement. Et hidour par la manière de pratiquer la mitzvah de Menorah. Ils n'ont pas voulu de l'huile impure alors que c'était permis. Ils n'ont pas voulu rester chez eux alors qu'ils étaient dispensés de la guerre. Mehadrin ou Mehadrin mina Mehadrin. Voilà pourquoi Hanouka y a cette double mitzvah. Si je puis me permettre de disposer de quelques minutes encore, là je vais passer au volet halachique. C'est-à-dire, il y a une machloket entre le Rambam et Rashi. Comment traduire le mot « mehadrin » Rambam, je vous l'ai lu tout à l'heure, il explique « mehadrin et hamitzvot », ceux qui embellissent la mitzvah. Mais ceux qui observent Rashi dans Dafraf Aleph à Moudbet, écoutez comment Rashi explique « mehadrin ».« Hamehadrin ahar hamitzvot »« Rosim ner echad bechol laïla lekol echad vechad mibnei habayit » Amehadrin ahar hamitzvot. Traduction, si je traduis mehadrin par embellir, ceux qui embellissent après les mitzvot. Ça ne veut rien dire.
C'est mochazer.
Très bien. Donc ici, la traduction du mot mehadrin, ça ne veut pas dire embellir d'après Rashi, c'est mehazer. En araméen, le dalet en hébreu, le zayin en hébreu, devient dalet en araméen. Comment on dit, par exemple, on va réétudier cette Gemara, Hadran Alar. On va revenir vers toi. La Gemara intel, dès qu'on fait un sillon, vous entendez Hadran Alar, Hadran Alar. Que veut dire Hadran Alar? On reviendra. Alors ici, mehadrin ahara mitzvot, ceux qui courent après les mitzvot. Dans la Gemara Shabbat, kufnun vav, quand la Gemara parle des mazalot, elle dit celui qui est né dimanche, quel sera son destin. Lundi, son destin. Celui qui est né vendredi, la Gemara dit, il sera hazran be mitzvot, un homme qui est coureur, qui court après les mitzvot. Comme vendredi, où c'est la course pour Shabbat. Il est né un jour de course pour la mitzvah, préparatif pré-shabbatique. Eh bien, cet homme-là qui est né le vendredi, il sera hazran be mitzvot. Rachid dit, mehadrin ahara mitzvot, mehazrin ahara mitzvot. Pourquoi Rachid n'a pas traduit mehadrin comme d'habitude? Rashi, c'est un pashtan. Rashi ne va pas chercher des complications midi à 14h. Rashi traduit les choses littéralement, il est toujours très proche du texte. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, il a décidé de traduire le mot mehadrin de l'araméen en hébreu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé les choses telles quelles, comme le Rambam l'a dit? Peut-être que, justement, Rashi se posait la question, à savoir, on n'a jamais vu mehadrin, mena mehadrin. Une double dimension de Hidour, ça n'existe pas. Donc forcément, ici, on est dans un autre cadre. On est dans une autre dimension. Non pas celle de l'embellissement de la mitzvah, mais dans la manière d'accomplir la mitzvah. Comme si Chachamim m'avait donné trois formules possibles de pratique de la mitzvah. Tu veux appartenir au minimum, ner l'école echad v'echad. Tu veux appartenir catégorie moyenne, pardon, premier c'est Ner Ishubeto. Deuxième c'est Ner l'école Echad Bechad. Troisième, Mosif Veoler. Mais c'est pas que tu fais ça, c'est la mitzvah, plus tu as embelli. Non, c'est pas un embellissement. C'est une autre façon de pratiquer la même mitzvah de Hanouka. Pourquoi Chachamim n'ont pas généralisé comme pour toutes les mitzvot? Parce que c'est quand même un budget. Vous savez que Chachamim, on dit que celui qui n'a pas d'argent, le Rambam écrit que celui qui n'a pas d'argent pour acheter de l'huile de Hanouka, il faut qu'il vende son manteau, qu'il se procure des sous, et il achète, avec cet argent, il achète de l'huile de Hanouka. Imaginez-vous qu'on avait l'obligation de cumuler en fonction du nombre de personnes et en fonction du nombre de jours. Ils sont 10 personnes, le pauvre mendiant, il a 10 personnes chez lui à la maison, il faut qu'il achète pour 360 bougies. Vous imaginez un petit peu combien de manteaux il va vendre le pauvre? On est en hiver, hein, Hanouka, vous le savez, ça se passe en hiver, et il ne fait pas très chaud. Alors le pauvre, Hachamim, on dit non. Tu veux pratiquer la mitzvah de cette façon? Ner echad ekolayla, une bougie par nuit, ça suffit. Tu veux appartenir à cette catégorie de mehadrin, mehazrim ahara mitzvot, ceux qui courent après la mitzvah. Ner ekol echad bechad. Mehadrin, mina mehadrin, ceux qui veulent vraiment appartenir à la catégorie maximale, voilà comment ils pratiquent la mitzvah. Parce que Rashi se posait deux questions. Premièrement, on n'a jamais vu Mehadrin, Mina Mehadrin. Deuxièmement, c'est quoi cette histoire-là? Hidur mitzvah, en général, c'est embellir la mitzvah. Par exemple, vous avez un etrog que vous pouvez acheter à 10 euros, vous pouvez l'acheter à 50 euros. À 50 euros, il est plus beau que celui de 10 euros. Eh bien, quand tu achètes un plus beau etrog, eh bien, tu feras une mitzvah plus belle. Ça s'appelle Hidur mitzvah. Mais c'est le même objet. Le même étrog qui est plus beau. Mais ici, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes encore d'autres bougies. La mitzvah, c'est une bougie. Le hidour, c'est deux bougies. C'est trois bougies. C'est 10 bougies. Mais depuis quand on a vu ça, que le hidour, c'est multiplier le nombre d'objets de mitzvah. On va dire, le hidour, c'est prendre 4 étrogim. Ah, tu veux être mehadem naverdim, prends-en 12. C'est du jamais vu, ça. C'est la raison pour laquelle Rashi a dit, ici, mehadrin, je ne peux pas le traduire littéralement. Mais Rambam a traduit littéralement « Mehadrin est un mitzvot ». Qu'est-ce qu'il fait avec cette question? Eh bien, c'était la réponse qu'on a donnée, à savoir que Rambam dit « On reste dans le cadre de l'embellissement de la mitzvah ». Ah, mais pourquoi est-ce qu'ici il y a « Mehadrin » et « Mehadrin » Parce que la raison de la fête de Hanouka, c'était le « Mehadrin » et « Mehadrin » des Hashmonaïm. Les Hashmonaïm eux-mêmes ont fait un « Hidour » plus « Hidour ». Et donc, la Hachamim, de manière très exceptionnelle, ils ont donné aussi la possibilité de faire Hidour plus Hidour. Ils cumulent. Je terminerai en disant que peut-être même, c'est la raison de la mahloket entre le Mehaber et le Rama. je vais plutôt vous économiser ça parce que ça va être un peu long. Je vais juste terminer par autre chose. La question se pose, quel est le din si quelqu'un a oublié de faire la bracha de l'Ehadlik Ner Hanouka avant l'allumage des Nerot? Il s'est souvenu après avoir allumé une bougie. Et il sait qu'il a encore d'autres bougies allumées, mais est-ce qu'il fait la bénédiction? Est-ce qu'il la récite? Ou bien c'est trop tard? Nous connaissons la règle. Kol ha-mitzvot mevarech aleihem over la'asiyatan. Toutes les mitzvot doivent être précédées de la bénédiction. La bracha doit toujours être récitée avant l'accomplissement de la mitzvah. Or, cette personne qui a déjà allumé la première bougie de Hanouka, et elle s'est rendue compte qu'elle a oublié de réciter la bracha, est-ce qu'elle peut se rattraper en récitant « Asher kideshanu merav tzivanu la'adlik ner Hanouka » pour allumer la deuxième et la troisième et la quatrième bougie? Quel est le din dans ce cas? Il y a une mahloket entre le prix Hadash et le Eliyahu Rabba. Prix Hadash dit « Finish !» T'as perdu l'occasion de réciter la bénédiction. Comme quelqu'un qui a fait une mitzvah, il n'a pas récité la bracha, il ne peut plus réciter après. D'ailleurs, par exemple, le Homer. Quelqu'un qui a mentionné le jour du Homer, il ne peut plus réciter « Baruch Atah Hashem Elokim, Asher Kideshanu Mitzvah Tzivanu » Tu as déjà fait la mitzvah, c'est fini. Bonhomme a déjà fait « Tevilat Kelim ». Une fois que tu as déjà trempé dans le mikvé ton keli, tu ne peux plus réciter la bracha. Tu as déjà allumé la première bougie, ça c'est la mitzvah. Tu n'es pas obligé d'allumer d'autres nerot. C'est que mehadrin et mehadrin mina mehadrin. Puisque le reste c'est qu'un embellissement de la mitzvah, tu ne peux pas dire vetsivanu, tu n'es pas tenu d'embellir la mitzvah. Tu n'es pas obligé. Alors comment tu vas dire vetsivanu, il nous a ordonné? Tu n'es pas ordonné. C'est le prix Hadash. Le Eliyahu Rabba dit que oui, il peut tout de même faire la bracha sur le deuxième ou troisième ou quatrième nerf, sur ce qu'on appelle nerot haïdour, les bougies d'embellissement. Très étonnant. Comment est-ce que ce serait permis de réciter une bracha que sur la partie des nerot qui sont là pour embellir la mitzvah? Très étonnant. Vous l'avez compris, c'est que le Eliyahu Rabba pense comme Rashi. Et le prix Hadash comme Rambam. Le prix Hadash est dit comme Rambam. Chaque bougie en plus, c'est juste un embellissement qui est facultatif. C'est pas un impératif. Comment tu peux dire Betzivan ou finish la bracha, elle est perdue. Le Eliyahu Rabba peut penser comme Rambam qui dit que ce n'est pas simplement un rajout sur la mitzvah, un embellissement. C'est une autre formule d'accomplissement. C'est une autre façon d'accomplir la mitzvah de l'allumage. Tu peux soit appartenir au minimum, appartenir à la catégorie moyenne, ou bien ceux qui sont mehadrin, mina mehadrin. Et chacun a sa façon d'accomplir la mitzvah, mais tout ce qu'il allume, c'est la mitzvah. C'est pas qu'il y a une bougie mitzvah et le reste c'est juste un surplus. Pas du tout. Quand tu as décidé d'appartenir au mehadrin, mina mehadrin, tout ce que tu allumes, c'est la mitzvah. Et tu peux dire vetsivanu, même sur la deuxième ou la troisième ou la dernière bougie, puisque tu n'as pas encore terminé l'accomplissement de la mitzvah, tu es en plein milieu. Et enfin, il y a une autre façon de comprendre le Eliyahu Rabba, c'est que dans Maseret Shabbat, Kouflamet Gimel, on nous parle de Hidur Mitzvah. Ze Eliv et Anvehu, c'est mon Dieu, et j'embellirai ses mitzvot. Itna'e lefanav be mitzvot. Ase lefanav sukana'a alulav na'e tzitzit na'a. Tu fais la mitzvah, essaye de la faire avec beauté. Eh bien, Rabotai, la Gemara nous dit là-bas, la Braïta, que si quelqu'un a fait la mila pendant Shabbat, eh bien le mohel, quand il coupe le prépuce, il faut qu'il fasse attention de couper la majorité du prépuce. Car s'il a coupé la minorité, alors qu'est-ce qui se passe? Il reste encore la majorité de la peau, de la orla qui recouvre la hatara. La mila n'est pas cachère. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Au moins le rov. Il faut tout enlever, mais au moins la majorité. Quel est le din si il n'a enlevé que la majorité, mais il reste une petite peau? Est-ce qu'il faut aussi l'enlever? La Braïta nous dit que oui. C'est une mitzvah. Hidur mitzvah. Hidur mitzvah, c'est-à-dire embellir la mitzvah. Retirer toute la peau de la orla, même si ce n'est que minoritaire et que ce n'est pas indispensable. Mais c'est bien, c'est une belle mitzvah de mila. Shabbat. Quel est le din pendant Shabbat? Est-ce que Shabbat, le Mohel, a le droit de faire saigner le petit en coupant ses petites peaux restantes. Nous savons que la Mila, normalement, aurait dû être interdite Shabbat, parce qu'on fait saigner. Mais la Torah nous dit clairement, « Ubayom hachemini mol besar orlato, bayom afilu be Shabbat » on a le droit de faire la Mila Shabbat. Mais est-ce qu'on a le droit de profaner Shabbat pour un hidur mitzvah? Évidemment que non. Mais, et tout de même, la Braïta nous dit, « Hamal, kolzman shelo pirash, hozer ben al tzitzin amerakvin tamila ben al tzitzin, she'en al merakvin et tamila. Pirash, al tzitzin amerakvin, hozer al tzitzin she'en al merakvin, eno hozer. » Traduction, « Tant que le mohel est encore occupé à pratiquer la mitzvah de la mila, alors dans ce cas, même Shabbat, il a le droit de revenir sur les petites peaux qui ne sont pas indispensables. Pourquoi ? Car le hidur mitzvah est rattaché à la mitzvah. Étant donné que la mitzvah de Mila a repoussé le Shabbat, alors même le hidur mitzvah de cette mitzvah repousse le Shabbat, car le hidur fait partie de la mitzvah. Mais si Pirash, si il s'est détaché, c'est-à-dire il a terminé l'action de la Mila, maintenant qu'il s'est retiré, s'il revient, il revient que pour le hidur mitzvah. Le hidur mitzvah ne peut pas repousser Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire saigner que pour un hidur mitzvah. Que pour la Mila, oui, mais pas pour le hidur mitzvah de la Mila. De là, on peut déduire que celui qui allume les nérotes de Hanouka, quand il allume la première bougie, il va allumer aussi la deuxième, la troisième, même s'il a oublié de réciter la bracha sur la première bougie, puisqu'il est dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire, dans l'action du feu, il est en train d'allumer le feu des nérotes Hanouka, eh bien, il peut se permettre de faire la bracha même sur le hidur mitzvah. Car ce hidur mitzvah est rattaché à la mitzvah. Puisqu'on peut faire la bracha sur la mitzvah, on peut faire la bracha aussi sur le hidur mitzvah, puisqu'il est dans le feu de l'action. Et Rabbi Akiva Iger est posek ainsi, et le Mishnah Bura le rapporte.
Ça veut dire, si c'est arrêté, il n'allumait qu'une seule. Après, il dit, attends, il fallait allumer aussi 2, 3, 4. Là, il ne peut plus faire.
Bravo. D'après ce pirouche, c'est comme ça. Mais d'après l'autre pirouche, alors, ça devrait marcher quand même. Et Rabbi Akiva Iger lui donne une autre raison. Il dit comme ça. On a un genre de Sfex Feka. Il dit, premièrement, on a le roche qui nous dit que pourquoi est-ce qu'on fait la bracha lehadlik? La bénédiction de l'allumage Hanouka a été formulée ainsi. On ne dit pas al hadlakat ner Hanouka, comme al netilat yadaim, al sefirat haomer. On dit lehadlik ner Hanouka, et non pas al hadlaka. Pourquoi on dit lehadlik? Le roche explique que toute mitzvah qui a une durée, alors on fait avec l'amed. Une mitzvah qui est ponctuelle, eh ben on dit avec al. Al netilat yadaim, al sefirat haomer, al ashrita. Tandis que une mitzvah qui a une durée, comme par exemple tzitzit, tefilin, lehaniyah tefilin, lehaniyah tefilin, lehitatef betzitzit. Car la mitzvah, c'est d'avoir les tefilin sur soi et chaque seconde. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas récité la bracha avant, il peut, pendant qu'il a les tefilin sur lui, être même mashmesh va tzitzit, et il fait la bracha. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui a une durée. Alors, le Roche compare la hadlaka de Ner Hanouka à Tzitzit. C'est une mitzvah qui a une durée. Il faut que ça reste allumé pendant une demi-heure. Bien que si ça s'est éteint, on n'a pas l'obligation de rallumer, mais tant que c'est allumé, ça fait partie de la mitzvah. Mitzvah Sheshlahem Shech. Alors le Rav, Rabbi Akiva Iger, dit, selon le Roche, tant qu'on est encore dans le zman de la mitzvah, il peut faire la bracha même sur la deuxième bougie qui est relative à la première, puisque la première, sa mitzvah continue. Et il dit également, on a machloket entre Eliyahu Rabba et Prichadash. Et également, on a le char dans Yoredera qui rapporte une shita de Rishonim qui est peu connue et qui dit que cette règle de kol ha-mitzvot mevarech alem envers la siyatan, c'est que les chathila, mais pas bediravad. C'est-à-dire qu'a priori, il faut toujours réciter la bénédiction avant l'accomplissement de la mitzvah. Mais a posteriori, si j'ai déjà fait la mitzvah, ce n'est pas grave, tu peux réciter maintenant la bracha. Certes, la halakha n'est pas comme lui, comme ce Rishon, mais quand même, ce Rishon existe. Ça nous permet de faire un montage, d'être metzaref, et de faire un sfex feka, et de dire que oui, en effet, il peut réciter la bracha sur les nérotes du hidur. Voilà, mon révérend Botaï, ce qu'on a voulu aujourd'hui partager, une réflexion sur la notion d'embellissement de la mitzvah, que Hakadosh Baruch Hu nous aide à incarner, intégrer profondément cet esprit, d'être toujours enthousiaste dans l'accomplissement des mitzvot, d'exprimer notre amour d'Hachem au travers de notre façon de le servir, et qu'on puisse mériter très bientôt d'allumer la menorah, de voir le Kohen Gadol allumer la prochaine menorah avec Hanukkah Amikdash Bekarov.
Petite question, ça veut dire ce que Rambam, rapporte que la consolation pour Aaron, c'est qu'il va transmettre à ses descendants sa frustration. Sa frustration est l'expression d'un amour. C'est ça ce que
bravo,
vous voulez dire.
Bravo,
c'est,
bien, c'est ça le bien dit. Très bien.
Cette frustration, et c'est ça qui va
exactement.
À ces générations.
Exactement. C'est le c'est résultant de l'amour qu'il avait pour Hachem.
C'était comme une sorte de névoie. Il savait qu'il allait avoir une guerre. Il savait...
C'est écrit dans la Torah. C'est pas comme, Aaron en fait, yen et vieha.
Que ça va se dégrader, quoi, que la situation se dégradera.
Ah, malheureusement, c'est une réalité. Israël a traversé des moments obscurs et difficiles, et ça nous enseigne.